bienvenue parmi nous, cher monsieur. Après une très belle conférence hier soir consacrée au rapport entre les catholiques et la droite en France depuis 1945, d'après un ouvrage qu'il a dirigé, qui compte une trentaine d'intervenants, si je me souviens bien, monsieur Yann Raison-Duclesiou, donc ce matin, nous donne une autre conférence, cette fois rien que pour nous, dont vous avez le titre qui s'affiche, « De la sécularisation à la minorisation, les recompositions du catholicisme français ». Alors, monsieur Duclesiou a souvent l'occasion d'intervenir dans la presse, la radio, en lien avec ses thèmes de recherche. Il est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, et il s'est fait remarquer notamment par « Qui sont les cathos aujourd'hui ?» en 2014, de la contemplation à la contestation, la politisation des dominicains de la province de France, années 1940-1970, c'est très ciblé parce que c'est sa thèse qui a été publiée, dont un résumé a été publié en 2016. Il a écrit en 2019 une contre-révolution catholique aux origines de la messe pour tous, et enfin, ce fameux ouvrage dont je vous parlais au début, dont il nous a entretenu hier soir, « À la droite du Père, les catholiques et les droites de 1945 ». À nos jours. Mais ce matin, c'est un autre thème qui va le retenir. Un grand merci, cher monsieur, de vous être déplacé jusqu'à nous pour nous parler hier soir et ce matin. Et nous sommes tout oui.
Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Ça va au fond? Ça passe? Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour votre invitation. Je suis très, très honoré d'ouvrir la réflexion, l'année de l'ATPA, et de pouvoir contribuer à votre réflexion. Alors, en discutant avec les membres de l'équipe, j'ai bien vu que vous aviez beaucoup de matières fondamentales, hébreu biblique, patrologie, des choses très sérieuses. Moi, je vais vous parler de l'extrême contemporain, et ma compétence est une compétence de sciences sociales. Donc, je vais vous proposer un point de vue relativement différent des points de vue ou des traditions disciplinaires que vous travaillez ordinairement. Alors, mon intervention de ce matin porte... a pour but de vous proposer une réflexion sur le devenir contemporain du catholicisme dans la société française. Et cette intervention, donc, je l'ai intitulée « De la sécularisation à la minorisation, les recompositions du catholicisme français ». Alors, pour réfléchir au devenir du catholicisme, il y a, à mon sens, un premier obstacle à franchir, c'est de nous déshabituer. Enfin, un premier obstacle à franchir, c'est l'habitude du déclin. Il faut nous déshabituer du constat du déclin, car nous sommes tous nés dans une société française au catholicisme déclinant. Car le déclin du catholicisme est une tendance ancienne. Félicité de Lamennais a publié son essai sur l'indifférence religieuse en matière de religion en 1817. L'abbé Bougaud publie « Le grand péril de l'Église de France » en 1878, où il décrit la chute des vocations religieuses, 1878. En 1943, ce sont les abbés Godin et Daniel qui publient « France, pays de mission ?», point d'interrogation, dans lequel ils s'alarment du décrochage des milieux populaires. En 1977, c'est l'historien Jean Delumeau qui publie « Le christianisme va-t-il mourir ?». En 2003, c'est la sociologue Danielle Hervieux-Léger qui publie « Catholicisme, la fin d'un monde », sans point d'interrogation. En 2017, c'est l'essayiste Rob Dreher qui publie « Comment rester chrétien dans un monde qui ne l'est plus », ouvrage dans lequel il invite les catholiques à un repli stratégique dans les communautés, pouvant s'inspirer du rôle des communautés bénédictines lors de l'effondrement de l'Empire romain. Enfin, en 2018... l'historien Guillaume Cuchet, que vous avez reçu l'année dernière, publie « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement ». Il renvoie donc le problème du déclin et de l'effondrement au passé, aux acquis de l'histoire, et en s'y penchant, donc, il parachève de donner à cette tendance un statut de fait historique. Le constat du déclin, c'est donc devenu quasiment un genre à part, un genre spécifique de la littérature savante. Mais la comparaison entre les titres et les approches depuis Félicité de Lamennais montre que la manière de questionner cette tendance lourde qui traverse et qui recompose notre société, eh bien, elle n'a cessé de se renouveler et de changer. Et c'est là quelque chose d'intéressant et d'important à réfléchir, c'est qu'il y a une fausse évidence du déclin, et dans une tendance générale, il y a de multiples étapes différentes qu'il convient de distinguer pour comprendre leurs enjeux spécifiques. Il est donc capital de se déshabituer du déclin, et ça n'est pas chose simple, parce que le déclin du catholicisme, il fait partie de notre condition historique. Nous en sommes familiers. Et cette familiarité nous aveugle. Et d'ailleurs, il est paradoxal de constater que l'effondrement statistique du catholicisme, qui s'accélère pendant la seconde moitié du XXe siècle, c'est à la fois un phénomène exceptionnel à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire un effondrement aussi rapide d'un fond structurant des mentalités, on n'en trouve pas d'autre. Donc c'est un fait exceptionnel, mais en même temps, c'est une tendance relativement peu discutée dans la société, relativement invisible. C'est un phénomène qui soulève assez peu de controverses. Pourquoi ? Parce que le détachement religieux est à la fois suscité par l'indifférence et invisibilisé par l'indifférence. Le déclin est donc une question finalement assez rarement posée. Les Français mesurent-ils vraiment les enjeux de la fin, de la perpétuation du catholicisme au sein de la plupart de leurs familles? Sans doute non. Et cette tension entre une question qui est ancienne et à la fois une question qui est rarement posée dans la société contemporaine, ça produit une forme d'effet anesthésiant. Et c'est là une difficulté du sujet. Il faut se défaire de notre habitude de la déchristianisation, car le déclin, en fonction de ses niveaux, il entraîne des effets nouveaux qui méritent d'être analysés dans leur spécificité. Il y a donc un effort constant de réflexion qui est nécessaire et deux biais qui sont à éviter pour mener à bien cette réflexion. Le premier biais, c'est le déclinisme. Ne voir que ce qui est perdu et se laisser dominer par l'obsession de la résistance à la perte. Ce qui peut contribuer à l'aveuglement sur les opportunités nouvelles qui s'offrent. Le deuxième biais à éviter, c'est l'angélisme. Faire comme si rien n'avait d'importance, Dieu ayant la solution à tout, il suffirait de lui faire confiance pour traverser l'épreuve. C'est la méthode Coué. Ce matin, dans un premier temps, je vais vous commencer par vous rappeler les indicateurs du déclin et pour penser la singularité donc, du seuil que franchit le catholicisme en France, qui est un seuil de basculement dans la minorisation. Dans un deuxième temps, j'engagerai une réflexion sur l'effet qu'a cette minorisation sur la recomposition interne au catholicisme, et dans un troisième temps, j'en viendrai au défi religieux que pose cette minorisation. Donc, premier moment, un nouveau paysage religieux avec un catholicisme minoritaire. Mon premier point, c'est le constat d'un catholicisme qui devient « zombie », entre guillemets. Alors, cette formule de catholicisme zombie, elle n'est pas de moi, elle est un peu brutale, un peu désagréable. C'est une formule du démographe Hervé Lebras et du sociologue Emmanuel Todd. Pourquoi parle-t-il d'un catholicisme zombie dans la société française aujourd'hui ? Ils veulent dire par là que, pour l'essentiel, la place du catholicisme dans la société française n'est qu'un effet de la force d'inertie du passé. Le catholicisme est avant tout une empreinte qui s'efface. Et un certain nombre de chiffres permettent de le mesurer, tout particulièrement si on s'intéresse aux chiffres de la pratique religieuse, le rapport au sacrement, par exemple. Vous avez devant vous une courbe de la pratique hebdomadaire. Bon, la courbe s'arrête en 2006. Le chiffre le plus récent de la pratique hebdomadaire dans la population française 18 ans et plus, c'est 1,8%, chiffre de 2016. Alors, une enquête de l'IFOP en mai 2022 a montré que si 80% de la population française est baptisée catholique, ce qui montre l'ampleur de cette empreinte, 80% des 18 ans et plus sont baptisés catholiques, il n'y en a que 72% de ces baptisés qui se disent encore catholiques. Et si ensuite on croise cette condition de baptisé avec la croyance, on obtient trois groupes d'importance décroissante. Sur l'ensemble des baptisés, 42% se disent catholiques non-croyants, 24% catholiques croyants mais non-pratiquants, et 6% catholiques croyants et pratiquants, dont 3% de pratiquants hebdomadaires. Donc, ayez en tête ces cercles concentriques du plus intégré et du plus convaincu au plus indifférent parmi les baptisés, et cela vous donne bien l'idée de la dynamique, c'est-à-dire qu'à l'échelle des grandes masses qui composent la société française, le catholicisme est avant tout une rémanence, une empreinte, et il ne reste une conviction. Le catholicisme demeure une conviction vitale uniquement dans une minorité. Si on regarde la pastorale sacramentelle, les chiffres confirment la tendance. En 1965, il y avait plus de 94% des enfants qui étaient baptisés dans les 3 mois après leur naissance. 94% des enfants, alors même qu'au début des années 60, il n'y avait alors que 25% de pratiques hebdomadaires dans la société française. Il ne faut pas oublier que la norme de la pratique religieuse dans la société française, ça n'a pas été au XXe siècle la pratique hebdomadaire, c'était la pratique saisonnière. Mais dans une France dominée par les normes religieuses, la pratique saisonnière était un véritable indicateur d'intégration au catholicisme. Aujourd'hui, la pratique saisonnière était la première marche d'une intégration, d'une conformité à un modèle valorisé qui était celui de la pratique hebdomadaire. Aujourd'hui, cette pratique saisonnière, elle est la première marche du détachement religieux. Si on prend, par exemple, l'année 2019, on mesure que le nombre, si on compare le nombre de naissances et le nombre de baptêmes, on obtient le chiffre de 27%. 27% à peu près de baptêmes dans l'année, mais sauf que la comptabilisation des baptêmes a beaucoup changé depuis le début des années 60, et maintenant on les comptabilise entre 1 et 7 ans. Ce qui veut bien dire qu'en fait, le chiffre réel, si on devait le comparer au chiffre des années 60, est bien en deçà des 27%. Bon, le recul du mariage catholique s'inscrit dans le même schéma. La pratique dominicale, je vous ai donné les chiffres, elle s'effondre. Ce qui reste finalement la forme de pratique religieuse la plus familière aux Français, statistiquement, c'est la messe de funérailles, ou la cérémonie de funérailles, puisque dans les générations de plus de 75 ans, le taux de pratique religieuse est important, le taux d'appartenance au catholicisme est important, et les funérailles, la forme catholique des funérailles reste dominante. Mais là encore, la tendance est en train de décliner assez rapidement. Donc, retenez ça, c'est quand même la messe de funérailles qui est la célébration la plus familière aux Français. Si on s'extrait un peu des statistiques pour observer les histoires familiales, on trouve quasiment une loi. Dans la plupart des familles françaises ces 50 dernières années, sans recharge de la valeur associée à la pratique de la messe. En trois générations, les parents pratiquants ont des enfants non pratiquants qui eux-mêmes ont des enfants non chrétiens. Alors, si maintenant on s'intéresse plutôt aux indicateurs de croyance et non plus aux indicateurs de pratique, on a encore des confirmations de ces tendances. En 2021, l'enquête IFOP Agir montre qu'il n'y a que plus que 49% de la population qui déclare croire en Dieu. Ils étaient 66 en 1947. Et avec l'effacement, la rétractation finalement de la croyance en Dieu, c'est tout un univers culturel et symbolique qui devient marginal. En 2001, 42% des Français possédaient une Bible. En 2022, ils ne sont plus que 27% des Français à posséder une Bible et 4% la lisent régulièrement. Alors, indépendamment de la lecture de la Bible, 81% des Français estiment encore connaître ses principaux épisodes, comme la naissance de Jésus. Mais si on va vers des épisodes un peu plus, un peu moins connus, tout de suite, les chiffres s'effondrent. Il n'y a plus que 34% des Français qui comprennent ce que sont les malheurs de Job. Alors que la pandémie et le confinement en 2020 ont été interprétés comme un moment de retour à l'essentiel, de recentrement, que l'expérience de la maladie et la proximité de la mort pouvaient sembler favorables à un regain des préoccupations religieuses, seulement 9% de la population déclare s'être rapprochée de la religion à cette occasion. La religion, les préoccupations spirituelles sont de moins en moins une préoccupation personnelle avouable en dehors du cercle proche. 38% des Français en parlent encore en famille, seulement 29% entre amis, 18% avec des collègues. Donc on voit bien que c'est un registre qui relève de plus en plus uniquement de la sphère intime. Et par ailleurs, si on s'intéresse à ceux qui, aux 9% qui estiment en 2020 s'être rapprochés de la religion à l'occasion de la pandémie de Covid-19, on mesure que ce sont les plus religieux. Donc, contrairement à ce que peuvent penser d'ailleurs souvent des catholiques, quand j'en discute avec eux, le déclin de la religion ne crée pas une soif spirituelle, mais se traduit par une indifférence croissante. Moins on a eu de socialisation religieuse, moins on a de préoccupations religieuses, et moins on en ressent le besoin. Très souvent, chez les catholiques, il y a souvent une hypothèse de l'effet élastique de la sécularisation. On trouve deux versions de cette hypothèse de l'effet élastique. Une version conservatrice. Les non-croyants souffriraient d'un manque de foi sans le savoir. Et par conséquent, il y a un moment où l'absence de religion dans la société va aboutir à une soif religieuse. Rien ne permet de le confirmer. Bien au contraire. C'est plutôt la tendance inverse qui s'affirme. Moins il y a de religion, moins la religion apparaît nécessaire. Et puis, il y a une version réformatrice de l'hypothèse élastique. L'Église s'est isolée des dynamiques structurantes de la culture contemporaine en raison de son conservatisme, sur la place des femmes, sur les questions de morale sexuelle, mais il suffirait qu'elle re-hiérarchise son positionnement, sa prédication, en accordant moins d'importance à ces questions, pour revenir, effet élastique, au centre de la culture contemporaine et retrouver une popularité. Aucune illustration, aucun exemple ne vient confirmer cette tendance, et les églises européennes ou américaines qui ont choisi des options extrêmement réformatrices sont tout autant en crise et en déclin que celles qui n'ont pas fait de choix réformateur. L'effondrement total de l'anglicanisme en Angleterre en donne un exemple. Rien donc ne permet de confirmer ces hypothèses. Et on voit aujourd'hui que les mentalités collectives, elles aboutissent à déconstruire le catholicisme. Jusque dans les années 60, le conformisme social portait vers la pratique religieuse. Les pratiquants occasionnels restaient pris dans l'influence du modèle de la pratique régulière, même s'ils ne s'y conformaient pas. Dans une société avec seulement 25% de pratiques hebdomadaires, plus de 90% des enfants étaient baptisés. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la pratique irrégulière est la marche qui précède le détachement religieux. Le conformisme s'est inversé. Le conformisme consolidait le catholicisme jusqu'aux années 60. le conformisme contribue à le déconstruire aujourd'hui, parce que les valeurs qui structurent la société ne sont plus les valeurs issues du catholicisme, mais des valeurs séculières. Et par conséquent, on voit bien que parmi les baptisés, ces 80% de baptisés qui composent la société française, si on les interroge sur les raisons de leur détachement religieux, c'est avant tout l'indifférence qui remonte dans les réponses. 23%, la religion ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin, je doute trop. 20%, je doute trop du contenu de la foi. 16%, je me suis détaché par indifférence sans l'avoir vraiment décidé. Et les conflits de valeurs ont une place très, très, bien plus secondaire, en fait, dans le détachement religieux. 21% disent « j'ai été choqué par les scandales médiatiques concernant l'Église ». Et, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais seulement 4% sur l'ensemble des 80% de baptisés dans la population française disent « mes choix de vie, divorce, concubinage, avortement, m'ont éloigné de l'Église ». Ce qui est très peu. Ce qui est très, très peu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est l'indifférence qui prime et qui produit du détachement religieux, bien plus que des conflits de valeurs. Alors ce qui est intéressant, c'est donc que ce détachement se fait dans l'indifférence et l'invisibilité dans la population française. Les trois quarts des familles dans lesquelles le catholicisme disparaît ne sont absolument pas conscients de l'effet global qu'a l'effacement du catholicisme dans leur famille. Comme le dit Guillaume Cuchet, vous l'a peut-être dit l'année dernière, dans bien des familles, personne ne se rend compte qu'en enterrant la grand-mère, qui est la dernière catholique pratiquante, c'est le christianisme qui est enterré dans la famille. Et c'est donc tout un pan de la culture familiale qui est supprimé, puisque le catholicisme était aussi ce qui structurait la culture familiale, avec toutes les fêtes qui étaient autant d'occasions de réunions de famille. Prenez un album de photos des années 50-60 et feuilletez-le. Qu'est-ce que vous allez voir dans la structuration du temps que montre cet album photo ? Que toute la festivité, les festivités familiales, sont liées à une structuration religieuse du temps. Par conséquent, le déclin de la religion au sein des familles n'est pas qu'un déclin de la religion, c'est une transformation et une dissolution en partie des liens familiaux. Alors, bien sûr, le déclin du catholicisme, c'est une chose, mais il y a également une diversification du paysage religieux. Premier constat à faire, c'est que ces dernières décennies, en France, les seules pratiques religieuses en augmentation sont du côté de l'islam. Maintenant, on voit aussi poindre une tendance du côté des protestants évangéliques, mais c'est quand même plus discret. Donc je vous cite quelques chiffres. Hein. Au sein des Français musulmans, eh bien, le fait de boire de l'alcool baisse, le fait de respecter le jeûne du ramadan augmente, le port du foulard se généralise chez les jeunes femmes, alors même que leur mère ne le portait pas. Donc on a une intensification des convictions religieuses. Et si on prend la grande enquête européenne sur les valeurs, l'enquête EVS 2018, elle montre que si on s'intéresse aux plus jeunes générations, la France... est en train de enfin, il y a un nouveau paysage religieux qui est en train de s'affirmer en France, un paysage où toutes les religions sont minoritaires, mais et où les minorités religieuses ont quasiment une importance équivalente. Donc l'enquête EVS, si on regarde la tranche des 18-29 ans, que voit-on ? Dans cette tranche des 18-29 ans, ce sont les sans religion qui sont le groupe majoritaire, très largement. Et ensuite, il y a 15% de catholiques déclarés, suivis immédiatement par 13% de musulmans déclarés. Le sociologue Claude Dargent, qui a travaillé sur ces chiffres, dit « Très probablement, si on avait croisé les questions d'appartenance déclarée avec les questions, avec une question sur « la foi est-elle importante pour vous ?», il y aurait déjà, dans la tranche des 18-29 ans, plus de musulmans convaincus que de catholiques convaincus. Alors, et ça, on le voit, par exemple, avec les chiffres aussi de l'enquête EVS, qui montrent que 26% des catholiques croient en un Dieu personnel. C'est le cas de 59% des protestants et de 76% des musulmans. Cette tendance, elle a encore été confirmée par l'enquête trajectoire et origine qui a été publiée cette année par l'INED. En gros, ce qui distingue le catholicisme des autres univers religieux, musulmans ou protestants, c'est que c'est le groupe confessionnel qui a la plus faible intensité intérieure. Par conséquent, ce qui semble confirmer la fameuse thèse de Marcel Gaucher, comme quoi le catholicisme est la religion de la sortie de la religion. Alors, bien sûr, il y a aussi des recompositions des croyances et il y a une mise en circulation des croyances religieuses en dehors de tout contexte de religion traditionnelle. Et ce qui est très notable, c'est qu'à la fois, on a donc un effondrement du catholicisme dans la population française, et en même temps, on a une dispersion des croyances spirituelles dans la population, indépendamment de tout ancrage dans une tradition religieuse précise. Par conséquent, on observe aujourd'hui un rebond de 4 croyances. La croyance en une vie après la mort, la croyance au paradis, la croyance en la réincarnation et la croyance en l'enfer. Et ce rebond est encore plus important chez les 18-29 ans. Mais ces croyances, elles sont liées à la dérégulation du religieux et très souvent ce ne sont pas nécessairement des croyances qui sont alimentées par un rebond du religieux. On est aujourd'hui totalement dans une... Le paysage des croyances aujourd'hui est totalement différent de ce qu'on pouvait imaginer au XIXe siècle, par exemple. Au XIXe siècle, si vous prenez Auguste Comte, il imaginait que la science contribuerait à chasser les préoccupations religieuses. Aujourd'hui, on voit que pas du tout. Au contraire, la science réfléchit aujourd'hui sur des questions d'une telle complexité qu'elle réintroduit du mystère et des formes paradoxales de croyances. C'est typiquement le cas des croyances en une vie après la mort. Guillaume Cuchet vous en aura peut-être parlé, c'est son grand sujet, qui aujourd'hui, ces croyances en une vie après la mort, elles ont un très fort rebond, mais ce rebond n'est pas lié à une tradition spirituelle, il est lié à une évolution des pratiques médicales, à une évolution de la définition de la mort clinique, qui fait qu'aujourd'hui, on va réanimer des personnes beaucoup plus tardivement qu'on ne le faisait auparavant, ce qui fait qu'on a eu une explosion des récits de near-death experience qui circulent par le cinéma, par la culture, sur YouTube, et qui diffusent le récit d'une séparation de l'âme et du corps. Alors, dans ce contexte, comment le catholicisme se recompose-t-il ? Comment le catholicisme se recompose-t-il ? Pour répondre à cette question, je vais vous parler de 3 enquêtes. L'enquête Confrontation 2014, qui est une enquête qualitative, et puis 2 enquêtes que j'ai conduites avec le groupe Bayard en 2016 et en 2022, qui sont des enquêtes, cette fois-ci, quantitatives. Alors, ces enquêtes, elles ont été fondées sur un choix. C'est le choix de travailler sur les catholiques engagés, c'est-à-dire non pas seulement les catholiques pratiquants, mais sur, et non pas non plus sur tous ceux qui se déclarent catholiques, hein, parce que vous voyez, si on prend les catholiques pratiquants hebdomadaires, on est à 1,8% de la population, si on est aux Français qui se déclarent catholiques, on est à 45% de la population. Donc il faut trouver, si vous voulez, la bonne cible entre ces deux pôles. Et vous savez tous qu'au sein des paroisses, comme au sein des mouvements, on ne trouve pas exclusivement des pratiquants catholiques hebdomadaires, mais on ne trouve pas non plus 45% de la population française. Donc, on a travaillé sur les catholiques engagés, c'est-à-dire des catholiques qui ont tous un rapport avec des mouvements d'église ou des mouvements non religieux, dans lesquels ils sont engagés et ils vivent cet engagement comme un engagement pris au nom de leur foi. Et par ailleurs, ce sont des catholiques qui, la plupart, ont tous une conception de ce qu'est ou de ce que devrait être l'Église. Donc, on a travaillé sur cette définition du catholique engagé. Et on a construit une enquête, une grande enquête qualitative avec l'association Confrontation, une enquête qui a été publiée dans « Qui sont les cathos aujourd'hui ?», une enquête qui repose sur 180 entretiens avec des catholiques engagés dans tout type de mouvement. Et l'intérêt de cette enquête, dont le résultat, c'est des milliers de pages hein, d'entretien, c'est qu'elle nous a permis d'accéder, en quelque sorte, aux imaginaires, aux représentations, aux attentes des catholiques engagés. Vous savez que la sociologie ne travaille pas sur l'individualité. La sociologie s'intéresse à ce qu'il y a de collectif dans le comportement individuel. La sociologie s'intéresse aux tendances collectives. Or, au fil de ces 180 entretiens, très vite, on finit par repérer des ritournelles. C'est-à-dire qu'on a beau être face à des personnes différentes, au bout d'un certain temps, avec une bonne pratique de l'enquête, une fois les deux premières phrases entendues, on peut à peu près deviner quelles vont être les quatre suivantes. Et vous faites tous cette expérience. C'est une expérience sociale tout à fait ordinaire. Et ça montre quoi? Ça montre que finalement, on ne touche pas là des l'individualité, mais on touche des sensibilités collectives, et c'est ça qui nous intéresse. Et ces ritournelles, on a pu les classer, les distinguer, et ça nous a donné accès à des sensibilités collectives et que nous avons pu cartographier. Alors ces sensibilités, je vais vous les présenter, mais un avertissement méthodologique, n'oubliez jamais qu'une typologie de sociologie n'est jamais la réalité. C'est une représentation, c'est une synthèse de la réalité, mais qui est indispensable pour penser la réalité par comparaison. Alors cette cartographie, la voici, issue de l'enquête publiée en 2014. Vous avez un axe vertical, c'est le rapport à Dieu. Le rapport à Dieu qui, tendanciellement, chez les catholiques, peut plutôt reposer sur le culte, les sacrements, la messe, ou qui peut plutôt reposer sur des formes moins codifiées d'expérience, une lecture personnelle de l'Évangile, le fait d'écouter un témoin, de la rencontre avec un pauvre, ou même la contemplation d'un paysage. Et puis, vous avez une variable horizontale qui représente la mise en œuvre de la foi. Et là, on trouve deux polarités, tendanciellement. Une mise en œuvre de la foi qui met d'abord l'accent sur des dévotions, pèlerinage, chapelet, adoration, ou une mise en œuvre de la foi qui met davantage l'accent sur l'altruisme, service des pauvres, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces polarités ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Les catholiques ne sont pas ou dévots ou altruistes, ou culturels ou inspirés. Ce sont des polarités et tous les catholiques se situent entre. Mais ce qui est intéressant quand on les écoute et quand on les observe, c'est qu'on voit bien qu'il y a des accentuations un peu plus dévots, un peu plus altruistes, qui permettent de distinguer les univers de sensibilité. Ces univers de sensibilité, vous les voyez, ils sont désignés par des cercles, des nébuleuses, des cercles qui se recoupent. Ce qui est encore une manière de dire que les choses ne s'excluent pas, les sensibilités ne s'excluent pas les unes les autres, mais quand même, on peut les distinguer. Alors, si on prend la partie basse de la carte, c'est le pôle cultuel. C'est là où on rencontre les catholiques qui sont les plus attachés à la messe et qui sont les plus attachés à l'espace paroissial. Ce pôle cultuel, on y trouve deux sensibilités. Tout d'abord, celle que vous voyez à gauche, très centrale, la sensibilité conciliaire. Alors, un avertissement, ça n'est pas parce qu'on les a qualifiés de conciliaires que ce sont les seuls catholiques à respecter le Concile Vatican II, pas du tout. Mais, on a essayé de prendre les étiquettes qui correspondaient le mieux à l'autodéfinition que les catholiques font d'eux-mêmes, pour mieux coller à ces réalités. Or, très souvent, ces catholiques, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils aiment, à un moment ou à un autre, c'est à la première, à la deuxième ou à la troisième minute de l'entretien, mais c'est assez rapide, ils aiment faire référence au Concile Vatican II qui a été pour eux un moment fondateur de réarticulation entre leurs aspirations personnelles, l'appartenance à l'Église et la place de l'Église dans la société. Et ce moment, vécu comme un moment enthousiasmant, les marque dans la longue durée. Par conséquent, vous devinez que ces catholiques conciliaires, quand même, tendanciellement, ils ont une matrice générationnelle. Ils ont une matrice générationnelle. Chez eux, on trouve tendanciellement une figure de Jésus. Jésus, c'est celui qui inclut l'exclu, qui transgresse les codes de la société juive de son époque, pour manifester la miséricorde de Dieu. Et pour eux, tendanciellement, être fidèle, vivre sa foi, c'est aussi perpétuer cette geste d'inclusion des exclus. Ils sont très attentifs à tout ce qui permet l'accueil, la communion dans l'espace paroissial. Ils aiment que, lors de la messe, tout le monde ait sa place. Tout le monde ait sa place. Catholiques convaincus et catholiques du seuil, hommes et femmes. Couples mariés, mais couples aussi divorcés. Ou divorcés remariés. Personnes hétérosexuelles ou homosexuelles. Donc, pour eux, les signes de la communion, de l'inclusion, sont directement liés à l'expérience de Dieu. Pas d'expérience de Dieu sans communion, sans accueil. Et ils aiment beaucoup certains gestes lors de la liturgie, le fait de se présenter à ses voisins de banc au début de la cérémonie, ou le fait de rompre l'ordre des bancs pour se tenir la main et dire le Notre Père. Bon, des gestes souvent qui reviennent dans les entretiens. Ce sont des catholiques très engagés dans les diocèses, dans les structures diocésaines, très engagés aussi du côté de l'altruisme. Ce sont des piliers du Secours catholique, de l'ACAT, du CCFD, de toutes les formes de services qui peuvent exister dans les diocèses. Et puis, de l'autre côté, à droite de ce pôle cultuel, il y a les catholiques observants. Les catholiques observants, chez eux, on trouve tendanciellement une autre figure de Jésus qui est mise en avant. Jésus est le Fils de Dieu mort sur la croix et ressuscité des morts pour offrir le salut à l'humanité. Ce qui les distingue, alors là encore, ce sont toujours des accentuations. Si je dis qu'il dit ça, ça ne veut pas dire que les autres ne croient pas ça. Mais c'est qu'eux vont mettre cet élément en avant. C'est ça qui m'intéresse, c'est les hiérarchisations. Et ces catholiques observants, ce qui les distingue des autres catholiques, c'est que tendanciellement, ils maintiennent toujours au centre de leur rapport à la foi la question du salut extramondain. La question de la vie après la mort. La question du salut. Ce qui n'est pas le cas tendanciellement de tous les catholiques. Alors, chez eux, par conséquent, la fidélité se joue par la rectification. C'est-à-dire qu'il faut être digne de ce salut qui est offert par Jésus. Et cette dignité, ils la travaillent en essayant de se conformer au maximum à un style de vie, à des recommandations ecclésiales. Mais dans ces recommandations, ils accordent une importance particulière aux règles. Ce sont des catholiques qui reconnaissent la portée ascétique des disciplines ecclésiastiques. C'est-à-dire, ils reconnaissent une vraie qualité religieuse au respect des normes. C'est en se conformant à des disciplines, comme le respect de le fait d'aller à la messe tous les dimanches, par exemple, le fait de conserver un certain jeûne eucharistique, etc. C'est en respectant des disciplines qu'on se vide de soi-même et qu'on s'emplit de Dieu. Ce sont donc des catholiques qui, finalement, à travers leur pratique, ont maintenu ou se sont fait le conservatoire d'un certain esprit de la pratique qui est anté-conciliaire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient pour autant dans la résistance au Concile Vatican II, mais finalement, les formes promues par le Concile Vatican II, ils y sont entrés en conservant le rapport aux normes qui dominait et structurait le catholicisme avant le concile, et qui, rapport aux normes, qui a quand même été marginalisé après. Alors ces catholiques sont très attachés à un style de messe plus hiératique, plus transcendant. Ce qui va les intéresser, c'est que le moment de la messe soit en rupture avec la vie ordinaire. C'est cette rupture qui, pour eux, est une condition de l'expérience de Dieu. Grand silence, chant en latin éventuellement, prédication doctrinale exigeante, tout ce qui vient rappeler la dimension transcendante de la religion, c'est-à-dire que il y a un culte dû à Dieu et pour Dieu, et que cela suffit, que ça n'a pas besoin d'avoir par ailleurs de finalité séculière de court terme. Alors on a là une autre matrice, hein. Ce n'est pas une matrice générationnelle, c'est que très souvent, c'est un catholicisme qui dépend d'un milieu de famille, qui s'est mis dans une position de réserve à l'égard des excès de la pastorale post-conciliaire, et qui très souvent, tout en restant dans les diocèses et dans les paroisses, ont doublé la catéchèse ou la transmission de la foi au sein de leur famille en raison d'un manque de confiance dans la catéchèse paroissiale ou des écoles catholiques. Si on passe au sommet de la carte, on a deux autres nébuleuses du côté de l'inspiration, c'est-à-dire qui sont moins liées aux formes sacramentelles, ce qui ne veut pas dire qu'ils les ignorent. Alors, à gauche, c'est le groupe des catholiques émancipés. Des catholiques émancipés, ce sont des catholiques qui, eux, ont une autre figure de Jésus. Jésus, c'est celui qui vient rendre aux hommes leur dignité, qui vient réparer les injustices, qui vient relever ceux qui sont abattus, et par conséquent pour eux, être fidèle à Jésus, c'est s'engager dans toutes les luttes qui permettent de redonner aux hommes leur dignité, qui permettent de les émanciper des dominations qui les défigurent. Et pour ces catholiques, eh bien, l'exercice de la foi se fait avant tout dans des engagements souvent séculiers, dans des organisations non catholiques. Ils accordent une très faible importance au culte. Éventuellement, la messe va se faire chez eux dans le cadre du mouvement, d'un grand rassemblement de leur mouvement, parce que leur rapport à l'Église ne passe pas par la paroisse, mais passe par des mouvements. Aumônerie du public, mouvement d'action catholique, mouvement guide des scouts de France, c'est dans ces cadres-là qu'ils accèdent à l'Église et pas en dehors. Donc des catholiques très engagés qui n'ont pas d'attente culturelle. Pour eux, ce qu'il y a de leurs attentes spirituelles vont plus dépendre d'une communauté de partage, d'un partage biblique, d'une révision de vie, donc d'une réflexion qui est menée de manière horizontale en petits groupes. Et puis, dernière sensibilité, la sensibilité des catholiques charismatiques, qui est en haut à droite. Et chez les catholiques charismatiques, on trouve encore une autre figure de Jésus. Jésus, c'est une personne. Une personne rencontrée dans un moment de conversion. La plupart de ces catholiques, quand on les interroge, on voit qu'ils ont, je dirais, un CV parfait de catholiques pratiquants, très souvent, famille catholique, catéchisée, lycée catholique, mouvement scout. Mais ils se présentent toujours comme des convertis, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils font l'expérience de la superficialité de leur vie de foi antérieure et ils se réengagent de manière plus intense dans la pratique après une expérience spirituelle forte qu'ils qualifient de rencontre avec Jésus. Et ces catholiques vont se regrouper souvent en communautés où se rassemblent des personnes qui ont fait le même type d'expérience, des communautés nouvelles. Ils ont souvent une certaine défiance à l'égard de l'espace paroissial parce qu'ils considèrent qu'au sein de celui-ci, la pratique et la foi sont un peu trop routiniers, un peu trop bureaucratiques, et ils vont privilégier donc des communautés où le culte est à la fois plus chaleureux et leur permet mieux de renouer avec cette relation intime avec Jésus. Pour eux, être fidèle, c'est toujours approfondir hein, ce moment de conversion, étendre finalement la conversion en y faisant basculer tous les pans de leur vie. Alors, ce sont des catholiques dans lesquels ensuite on trouve des sensibilités diverses. Hein, c'est pour ça que c'est une sensibilité qui est au contact de tous les autres univers, puisqu'on va trouver des communautés nouvelles qui sont plus proches de l'univers observant, d'autres qui sont plus proches de l'univers émancipés ou d'autres plus proches du catholicisme conciliaire. Alors, ces quatre types de catholiques, vous comprenez bien qu'ils ont des attentes à l'égard de l'Église, des rapports à la société qui sont relativement différents. Et cela permet de comprendre une conflictualité. Ce sont les cases en bas du tableau. Pour les observants, la modalité de l'évangélisation, c'est la transmission familiale et l'affirmation publique. Pour eux, la conception de l'Église, c'est un phare qui éclaire dans les ténèbres. Les catholiques charismatiques, ils pensent que l'important, c'est la conversion personnelle, que si tous les catholiques étaient vraiment des convertis, alors l'Église rayonnerait nécessairement. Et donc, ils pensent que si l'Église est en crise, c'est parce que ça n'est pas une communauté de convertis. Les émancipés, ils pensent que la modalité de l'évangélisation, c'est la solidarité avec les pauvres, les luttes pour la transformation sociale. Et ils pensent que si l'Église est en crise, c'est parce qu'elle reste trop liée à l'ordre établi et n'est pas suffisamment présente dans les luttes sociales aux côtés des plus pauvres. Les catholiques conciliaires considère que le rapport de l'Église à la société, ça doit être la compassion, la fraternisation, l'accueil. Et il considère que si l'Église est en crise, c'est parce qu'elle n'est pas accueillante, c'est parce qu'elle est trop clivante. Et ils aiment bien, pour penser l'Église, cette formule proposée par le pape François, celui de devenir un hôpital de campagne où tous les blessés de la vie pourront trouver refuge. Alors, vous comprenez donc, au regard de ce tableau, que, comme le disait le sociologue François-André Isambert, la crise de l'Église, ce n'est pas seulement des statistiques en déclin, c'est aussi un conflit sur la cause de la crise de l'Église. Parce que, alors même que ceux qui, quantitativement, sont la cause du déclin du catholicisme, c'est-à-dire dans la population française, ces grandes masses de baptisés qui sont la cause du déclin ne sont absolument pas conscients que, en interrompant des pratiques de transmission religieuse dans leur famille, il en résulte un effet d'effondrement du catholicisme, puisque cette question est invisible à leurs yeux, invisibilisée par l'indifférence. Mais en revanche, les pratiquants qui restent, ils sont obsédés par cette question et ils se divisent entre eux, s'attribuant mutuellement la responsabilité du déclin. Pour les uns, c'est la désacralisation post-conciliaire qui est la cause du déclin, mais pour les autres, c'est l'obsession de la morale sexuelle depuis Humanevitae et puis la prédication de Jean-Paul II qui est la cause du déclin, etc., etc., etc. Mais alors, comment se recompose entre ces sensibilités, comment se recompose le paysage catholique dans un contexte de déclin? Ça, c'est ce que nous permet de voir l'enquête Bayard-Ipsos de juin 2016, qui est une enquête quantitative, mais je passe sur les détails. Et j'en viens directement à des faits intéressants, comme par exemple cette analyse factorielle, qui est un document dont je suis très content. Vous pouvez le goûter, l'apprécier. C'est une analyse factorielle, en fait, c'est une représentation graphique de la structuration des enquêtés, puisque vous avez des tas de chiffres qui représentent les enquêtés. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le groupe a une structuration pyramidale. Et que vous voyez bien que la carte que je vous ai présentée, issue de l'enquête qualitative, c'est une carte à plat de sensibilité. Les cercles ne correspondent pas à une importance quantitative. Et le groupe Bayard m'a démarché en disant « C'est très bien cette carte, mais ça serait bien un peu de quantifier les groupes, parce que bien sûr, il y a des stratégies commerciales à affûter derrière ça. » Donc, nous avons fait affaire. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le catholicisme a une structure pyramidale et que tendanciellement, cette structure s'interprète en fonction de deux variables. Le rapport à la pratique, la grande masse dense, c'est ceux qui sont indifférents à la pratique. La pointe fine, ce sont les plus pratiquants. Et puis ensuite, il y a un axe horizontal qui est un axe sur les valeurs, avec ceux qui privilégient d'un côté les valeurs d'hospitalité et ceux qui, d'un autre côté, privilégient les valeurs d'identité. Alors, donc, ce que montre cette enquête, c'est que, tout d'abord, plus les catholiques sont pratiquants, plus ils sont engagés, ils se considèrent comme engagés, et plus ils ont d'engagement. Donc, premier acquis, la pratique de la messe reste l'indicateur pertinent de l'intégration religieuse, même si l'intégration religieuse ne se résume pas à la pratique de la messe. Mais c'est quand même la tendance structurante. Et ensuite, ces données nous ont permis de reconstruire la carte que je vous ai donnée et de quantifier les groupes. On voit que parmi les plus pratiquants, on a les observants, 7% dans les catholiques engagés, les conciliaires, 14%, les inspirés, 4%, les émancipés, 4%, et puis deux autres groupes qui apparaissent parce que le panel de l'enquête était plus large, les saisonniers fraternels, c'est-à-dire des personnes qui assistent à la messe à Noël, et au rameau plutôt qu'à Pâques d'ailleurs, et chez qui on ne trouve pas vraiment une figure de Jésus quand on les interroge, mais on trouve des valeurs. Être catholique, c'est les valeurs de partage, d'accueil, de solidarité. Et puis un autre groupe très massif, les festifs culturels, qui, eux, on les trouve à la messe essentiellement quand la cloche sonne pour eux, baptême, mariage, obsèques, et chez qui on ne trouve pas non plus vraiment une figure de Jésus, contrairement aux autres, mais on trouve l'idée que être français, c'est être catholique, et que le catholicisme fait partie de leur matrice culturelle. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette enquête permet aussi de mesurer que il y a du détachement religieux dans tous les univers de sensibilité. Dans tous les univers de sensibilité que je vous ai décrits, il y a du détachement religieux. Mais que tendanciellement, ceux qui pratiquent le plus, c'est-à-dire les observants, sont ceux dans lesquels il y a moins de détachement religieux. C'est-à-dire que l'intensité de la pratique de la messe est liée à l'intensité de l'intégration religieuse et donne une meilleure capacité à la de résistance à la sécularisation de la société. Ce qui fait que le catholicisme, tendanciellement dans un contexte de sécularisation, il se recompose sur ce qui reste. Et les quatre univers de sensibilité que je vous ai décrits, eh bien, ils existent, on les trouve tous les quatre dans les générations catholiques les plus âgées, mais on ne les retrouve pas dans les mêmes proportions dans les générations les plus jeunes. Et les catholiques observants sont une tendance croissante dans les plus jeunes générations. Parce que, au sein des familles observantes, la transmission religieuse a plus de succès qu'au sein des autres sensibilités religieuses, parce que ce sont ceux qui sont les plus attachés à la valeur religieuse des pratiques. Et ces pratiques sont les meilleurs facteurs d'intégration religieuse. C'est pas une considération religieuse que je fais, mais un constat sociologique. Et bien sûr, ceci a des effets sur le positionnement de l'Église, parce que tendanciellement, bon, les couleurs ne sont pas très visibles, je n'ai pas eu le temps de modifier, mais tendanciellement, en gros, les deux côtés de la pyramide, on ne trouve pas tout à fait les mêmes sensibilités politiques. Et que les conciliaires, les émancipés, les saisonniers fraternels, ce sont des catholiques chez lesquels on retrouve tendanciellement deux votes dominants, c'est le vote centre-droit et le vote centre-gauche. Alors que les observants, les inspirés et les festifs, ce sont deux groupes dans lesquels on trouve comme vote dominant le vote droite de gouvernement et le vote Rassemblement national. Par conséquent, en se recomposant en raison du déclin, à la fois le catholicisme devient plus conservateur d'un point de vue religieux et d'un point de vue politique. Cela se traduit directement dans la sensibilité à la question des migrants, par exemple. Où là, on voit bien les deux côtés de la pyramide. Mais en même temps, on voit à quel point les observants qui sont les plus pratiquants, eh bien, en raison même de leur forte intégration religieuse, cela vient modérer l'opinion sur les flux migratoires comparativement à ceux qui sont moins pratiquants. Alors, Alors bien sûr, ces tendances, elles s'illustrent encore très récemment si on s'intéresse au profil des inscrits au JMJ de cette année. C'est une enquête que j'ai faite avec Lacroix et qui montre que, très nettement, les jeunes catholiques, ils ont avant tout une matrice, ils viennent des familles les plus pratiquantes. Et puisqu'on en a 75% qui assistent à la messe au moins une fois par semaine, dont 24% sont très zélés, ils y assistent plusieurs fois par semaine. Cela joue bien sûr on voit bien effectivement que du coup les sensibilités religieuses chez les jeunes, c'est pas les mêmes que dans le reste du catholicisme, puisque la représentation dominante de l'Église qu'on trouve chez les inscrits au JMJ, c'est un phare qui montre le chemin dans les ténèbres, ce qui correspond à la conception des observants, et en revanche l'hôpital de campagne, ce qui correspond à la conception des conciliaires, c'est ce qu'il y a de plus minoritaire. Cela se traduit également par une forte tolérance, bienveillance à l'égard de la messe en latin, puisque, en gros, ceux qui sont hostiles à la messe en latin sont minoritaires, 12%, alors que dans les générations plus âgées, j'ai pas eu le temps de vous montrer le tableau, c'est un groupe beaucoup plus important. Donc on voit bien que les recompositions, les sensibilités liturgiques sont tout à fait différentes chez les jeunes. Mais attention, la question du rapport à la messe en latin ne s'y pose pas non plus de la même manière que dans les générations plus âgées. C'est une expression, une forme spirituelle plus dense qui attire pour cette raison et qui n'est plus liée, si vous voulez, à des rivalités ou à des combats post-conciliaires. Le Concile Vatican II, dans les jeunes générations, c'est comme le Concile de Trente. Bien, et on voit que chez ces jeunes, l'expérience militante, elle est surtout liée à la lutte contre les questions bioéthiques ou les questions de morale sexuelle, donc, encore une fois, biais conservateur. Alors, J'en viens à ma dernière partie. Quels sont les défis religieux posés par cette minorisation? Forcément, cette recomposition du paysage interne du catholicisme, ça pose des questions. Alors tout d'abord, ça crée des défis. Il faut se souvenir que, et ça sera mon premier point, une élévation de la frontière entre les catholiques et le reste de la société, il faut se souvenir que le catholicisme, il s'est construit à travers l'expérience majoritaire en France, et il s'est construit donc sur le modèle d'administration de l'intégralité de la population. Quadrillage du territoire. Le quadrillage du territoire permettait le contrôle religieux des populations. Et ce modèle est entré en crise avec l'exode rural, le déclin du sacerdoce, le déclin de la pratique. Le remaniement des cartes paroissiales fut la principale réponse à ce déclin. Mais, comme l'a montré François Werner dans son ouvrage « Le dimanche en déroute », cette recomposition des cartes paroissiales, hein, fusion-acquisition, vous avez tous connu ça, eh bien, c'est tout autant une réponse au déclin qu'une contribution au déclin, puisque à chaque fois que la carte des paroisses est remaniée et fusionnée, il y a une déperdition d'un nombre de pratiquants relativement important et une déperdition aussi de la demande sacramentelle. Pourquoi ? Parce que, à chaque fois, cela contribue à faire perdre la familiarité entre les catholiques pratiquants et les pratiquants irréguliers. Avant, il y avait toujours, on connaissait quelqu'un de plus pratiquant, et donc, il y avait une médiation qui se faisait assez simplement quand il s'agissait d'aller demander un baptême, d'aller demander un mariage. Aujourd'hui, localement, cette médiation ne se fait plus, puisque comme il n'y a plus de messe dans les villages ou dans les localités, les gens ne savent plus qui, dans leur entourage, est plus pratiquant. Et par ailleurs, les prêtres se raréfiant, aller rencontrer un prêtre, ça devient aussi inhibant que d'aller chez le banquier ou chez le notaire. Et même, sans doute, beaucoup plus. Et par ailleurs, ceux qui accueillent les demandes de sacrement, ne connaissant pas ceux qui s'adressent à eux, ils vont avoir tendance à tester. Et la recomposition du catholicisme se faisant toujours d'une manière un peu élitiste, sur ceux qui ont un capital religieux, les moins pratiquants sont toujours testés en fonction des critères des plus pratiquants, ce qui crée un seuil qui contribue à inhiber les demandes et à faire en sorte que dans certains départements, on voit une augmentation des baptêmes républicains alors qu'il n'y a aucune augmentation locale de la libre pensée ou de la franc-maçonnerie, mais tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple à demander, c'est moins inhibant, que les élus locaux sont toujours contents d'accueillir quelqu'un, là où demander, il n'y a pas d'examen de passage. Donc c'est une première tendance. Cette tendance, elle est aussi accélérée, donc vous voyez une élévation de la frontière entre les plus pratiquants et les moins pratiquants, ce qui est aussi accéléré par la recomposition du catholicisme sur une base plus observante. Les familles qui maintiennent la foi, ce sont celles qui se sont appropriées la transmission. Les familles qui laissaient ce soin aux paroisses, mouvements et écoles se sont tendanciellement déchristianisées. Ça, c'est quelque chose de très important à noter. C'est que, en sociologie, on sait que la transmission du capital culturel, la transmission de la culture, ça a deux grandes modalités, tendanciellement. Les classes populaires, leur culture, elle est transmise par des institutions collectives. Le communisme populaire, ça se transmet par le syndicat, par le parti, par la section, par les cercles de marchands de l'humanité dimanche. Et le catholicisme populaire, ça se transmettait par l'école, par la paroisse, par la catéchèse, par le contrôle social dans le village. Les classes sociales supérieures, elles maîtrisent toujours la transmission de leur culture, parce que leur statut social en dépend. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les classes populaires, dont le capital culturel dépendait des institutions collectives, eh bien, ce sont les classes qui se déchristianisent, alors que les classes sociales élitistes qui maîtrisent la transmission de leur capital religieux, qui doublent la catéchèse paroissiale au sein de la famille, parce qu'ils ne sont pas très sûrs de la catéchèse paroissiale, eh bien ce sont celles dans lesquelles la foi se transmet. Par conséquent, voyez, les enjeux de la transmission de la foi aboutissent à ce que les classes sociales supérieures s'en tirent mieux, parce qu'elles ont un vrai savoir-faire dans la transmission. Ce qui joue pour toutes les formes de transmission, matérielle, fiscale, mais aussi religieuse. Du coup, ces familles, obsédées par la question de la transmission, elles cherchent les meilleures conditions pour perpétuer la foi. Ce qui va aujourd'hui jouer dans le choix du quartier, le choix de l'école, le choix de la troupe scout. Et par conséquent, ces familles, cherchant le meilleur contexte pour transmettre la foi à leurs enfants, contribuent aussi à s'écarter de toutes les structures, y compris catholiques, qui sont trop dominées par des populations déchristianisées. Ce qui fait que, systématiquement, ces catholiques, par exemple, vont avoir tendance à créer des écoles hors contrat pour éviter de mettre leurs enfants dans les écoles catholiques sous contrat, parce que la transmission religieuse y semble trop fragile, le public trop sécularisé. Et ce faisant, ces familles à la fois résistent à la sécularisation, puisque on voit bien que la transmission est véritablement l'enjeu principal qui permet le succès de la transmission religieuse, mais en même temps, paradoxalement, c'est comme le remaniement de la carte paroissiale, ça contribue à accélérer la sécularisation, parce que ça fait que les moins pratiquants sont de moins en moins en contact avec des plus pratiquants. Or, et cela a aussi des conséquences religieuses. J'en viens à mon deuxième point, il faut que j'aille vite, on me presse. Mais on m'a fait commencer en retard.
Ça a été pris en compte.
C'est que tendanciellement, moi, quand je... Vous voyez, l'année dernière, j'étais invité au Congrès Mission. Le Congrès Mission, d'ailleurs, c'est ce week-end. J'espère que je ne vous ai pas privé d'y aller, c'est à Toulouse. J'étais invité au Congrès Mission pour présenter l'enquête qui a été faite sur les baptisés par la revue Mission l'année dernière. Et j'ai été extrêmement frappé par toutes ces prises de parole de catholiques qui, tous, venant pour la plupart de communautés nouvelles, mettaient en avant leur expérience de rencontre avec Jésus. Eh bien, c'est là, et mettait en avant une foi reposant sur l'adoration, beaucoup sur l'adoration, la rencontre avec Jésus, et n'insistant pas particulièrement d'ailleurs sur la messe. Et c'est très intéressant parce que, tendanciellement, mettre en avant cette rencontre avec Jésus comme finalement modèle de l'appartenance religieuse, c'est mettre en avant une conception extrêmement élitiste de la foi. Et c'est la manifestation d'un élitisme religieux. Il faut comprendre quelque chose. C'est que lorsque le catholicisme dans la société française était en position d'hégémonie culturelle, comme l'a montré Yves Lambert dans son très beau livre « Dieu change en Bretagne », cette hégémonie culturelle, elle reposait sur deux choses, sur la double fonctionnalité des pratiques religieuses. C'est-à-dire que toute pratique religieuse, elle avait un sens religieux, elle permettait de gagner son salut, de devenir plus saint, mais elle avait une fonctionnalité sociale. Ça intégrait socialement, ça faisait qu'on était quelqu'un de bien. Vous savez, dans les années 60, si on n'avait pas fait sa communion solennelle, on n'était pas forcément embauchable. Donc il y a une double fonctionnalité. Et une double fonctionnalité. La double fonctionnalité des pratiques, c'est toujours la condition de popularité d'une religion. Toujours. En revanche, en sociologie, on sait que tout groupe qui affirme la valeur du culte pour le culte, la valeur de Dieu pour Dieu, c'est un indicateur d'une tendance sectaire, au sens sociologique, c'est-à-dire d'une recomposition élitiste et de l'élévation de la norme de l'appartenance sur un critère de virtuosité religieuse, avoir rencontré Jésus. Donc, tendanciellement, cette valorisation de la rencontre avec Jésus, c'est à la fois un effet de la recomposition élitiste du religieux, d'une recomposition sur les classes sociales supérieures, et c'est aussi une stratégie de communication et d'évangélisation qui, paradoxalement, peut contribuer à agrandir le fossé avec le reste de la population. Parce que il y a une question qui a été totalement éludée, marginalisée dans les recompositions du catholicisme depuis les années 50, c'est une vieille histoire, c'est la valeur du conformisme religieux. Une religion n'est populaire que dans la mesure où elle repose sur du conformisme. Et il faut cesser, là c'est un point de vue de sociologue, il faut cesser de regarder le conformisme comme quelque chose de péjoratif. Car dans les classes populaires qui n'ont pas de capital culturel, le conformisme, c'est le moyen ordinaire d'appropriation des valeurs, d'appropriation des styles de vie qui sont reconnus comme bons, comme désirables. On imite un style de vie qui est désirable, on a envie d'y ressembler, on s'y conforme, même si on n'en maîtrise pas totalement toutes les justifications théoriques, les tenants et les aboutissants. Et c'est pourquoi on pouvait voter communiste sans avoir lu le Capital de Marx, et c'est pourquoi on pouvait être catholique de manière très sincère et très profonde, sans pour autant maîtriser la théologie ou la patrologie. Or, on voit que, eh bien, aujourd'hui, il y a une extrême dévalorisation du conformisme et il y a une valorisation du paradigme de la conversion. Moi, je l'entends très souvent, y compris des évêques qui me disent « Oh, vous nous parlez du déclin, mais nous n'avons plus la quantité, mais nous avons la qualité. » Bon, déjà, regarde un sociologue, la qualité, enfin, elle relève de conditions sociologiques, hein, mais ce ne sont pas les mêmes, c'est tout. Bon, il faut que j'avance, je sais. Donc, je conclus. Je conclus, je crois que vous avez compris l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a une minorisation du catholicisme, mais le catholicisme devient minoritaire tout en restant dans la plupart des mémoires une ancienne majorité. Et une ancienne majorité qui devient une minorité, ça pose des problèmes spécifiques. Et ça crée par exemple des tensions spécifiques internes au sein du catholicisme, entre autres des conflits générationnels. Parce que les générations les plus âgées, elles ont grandi dans un catholicisme ultra-majoritaire, plus de 90% de baptême encore au début des années 60, elles ont grandi dans un catholicisme ultra-majoritaire, et dans leur tranche d'âge, elles vivent et elles évoluent dans un catholicisme qui reste majoritaire. Donc les générations les plus âgées dans l'Église sont doublement majoritaires. Elles sont majoritaires en tant que seniors dans l'Église, hein, pyramide des âges est inversée. Pas besoin de prendre d'exemple, hein. Mais la pyramide des âges est inversée, donc domination des seniors dans les structurations ecclésiales, et par ailleurs, ces seniors, dans leur génération, ont l'expérience d'un catholicisme majoritaire. Et les jeunes générations, dans l'Église, elles sont minoritaires, et dans leur génération, elles sont minoritaires en tant que catholiques, donc doublement minoritaires. Ça aboutit, vous voyez, à une énorme distorsion des points de vue et des attentes. C'est-à-dire qu'alors que les seniors qui sont marqués par un catholicisme majoritaire, qui sont marqués par le moment conciliaire, ce sont des générations qui ont toujours cherché à échapper à la pesanteur de ce fait majoritaire, en sortant d'un catholicisme, du conformisme, en sortant d'un catholicisme qui s'appuie trop à l'ordre dominant. D'où la volonté de sortir d'une certaine institutionnalité, d'une certaine verticalité, et de repositionner le catholicisme comme une proposition qui soit auxiliaire du désir d'émancipation des personnes. Ce qui traduit beaucoup, en fait, les choix de pastoral de cette génération, qui sont liés à cette expérience majoritaire et qui sont orientés par le besoin d'échapper à la pesanteur qui correspond à ce fait majoritaire. Mais les jeunes générations, elles sont confrontées à un problème, c'est celui de l'effacement. L'effacement qui est une perspective de court terme. Parce que, d'un point de vue sociologique, rien ne permet d'assurer que, aux chiffres de déclin que je vous ai présentés, il y a un plancher. Des chrétiennetés qui disparaissent, hein, il y en a de multiples exemples historiques. Donc, ça crée une énorme conflictualité interne. Parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes types de demandes. Les jeunes se recomposent aussi dans une dynamique minoritaire, en prenant aussi exemple sur les autres minorités. Et là, d'ailleurs, il y a un phénomène qui est présent chez les jeunes catholiques, la demande de règles, la demande de visibilité, le port de la soutane chez les jeunes prêtres. Et ce phénomène, eh bien, les plus vieilles générations souvent l'interprètent comme un retour du passé, parce qu'elles l'interprètent par rapport à leur expérience du passé antéconciliaire. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Parce que le retour de l'attachement aux formes de visibilité religieuse, le retour de la valorisation des règles ascétiques et des disciplines, c'est une tendance que l'on trouve dans toutes les jeunes générations religieuses, chez les jeunes musulmans, chez les jeunes juifs. Les jeunes femmes musulmanes portent plus le foulard que leur mère, les jeunes juifs portent plus la kippa que leurs parents, etc., etc. Et c'est, donc c'est une dynamique globale, et c'est donc une manifestation de la culture contemporaine. C'est une manifestation d'un religieux qui se recompose à une échelle minoritaire. Et ça, c'est compliqué à penser. Par conséquent, il faut bien mesurer ce qui se joue là pour que cette conflictualité ne soit pas contre-productive. Mais en même temps, cette conflictualité, elle est intéressante. Parce que, et c'est une ressource à travailler au sein de l'Église, parce que cette expérience à la fois majoritaire et minoritaire, elle doit permettre un contrôle critique pour une meilleure maîtrise de la transition. Il ne faut pas juste subir la minorisation, il faut en contrôler et en mesurer les enjeux, parce qu'il y a des défis et il y a des effets pervers, je vous en ai donné quelques-uns. Et ces effets pervers ne peuvent apparaître que si on a un peu de distanciation à l'égard des tendances en cours. Et c'est en ce sens qu'il est très important d'inverser cette conflictualité générationnelle en collaboration pour mieux maîtriser le processus. J'en ai fini.
Bravo. Un grand merci.